de silence et d'eau fraîche. Un documentaire sonore de Stéphanie Fonvielle et Mahé Benhamed.
Jamais ma grand-mère n'a parlé de cette guerre. Jamais. C'était un sujet tabou. Personne ne parlait de cette guerre.
Les hommes, ils n'en parlaient pas de la guerre. Mon père, j'ai jamais entendu parler de quand il était à Pau. Même pas, tu sais, par exemple... Quand on tuait le cochon, qu'on discutait beaucoup, ça durait longtemps. Et pourtant, Dieu sait si elle avait des bons souvenirs.
J'ai entendu plus parler de Élise, la fille d'Ernest, que de Ernest lui-même.
Tu sais qu'il est mort à la guerre. C'est le seul qui est parvenu des deux.
Voilà, là on rentre vraiment dans le moulin. Ici, nous avons un grenier où personne ne met jamais les pieds. Et au cours de travaux, un ouvrier a fait des trous dans le plancher. Et tout à coup, une lettre est tombée. C'est une lettre tombée du ciel, quoi, parce que... Elles étaient là presque depuis une centaine d'années. Et bizarrement, juste 2 ou 3 ans avant le centenaire de 1914, on a découvert l'existence de ces lettres.
Alors là, c'est lettre 4. On va la lire ensemble de nouveau.
Ouais.
Le moulin, 1er février 1915, mon bien-aimé petit Marc.
Ces lettres, elles étaient au grenier. Moi, je suis Ingrid. J'ai dormi dans la chambre sous ces lettres pendant des années sans savoir leur existence. Je suis l'arrière-petite-fille de Marie et Pierre. Et un beau jour, elles ont fait leur apparition. Mon père a été en grande partie élevé au moulin chez Pierre et Marie. Et ça a été très émouvant de pouvoir retracer un peu mon histoire quelque part. Ça, c'est heure ou heureux ?
Heure.
Mais après, ce qui me touche beaucoup, c'est de me dire que lui et moi, on puisse faire ces lectures en hommage à mes arrière-grands-parents et pour lui, en hommage à ses grands-parents.
Au moment où je te fais la lettre, c'est presque nuit et on dirait que le vent se pose un peu. Il faut croire, tu vois encore, il faut croire. Il faut croire cependant... qu'un vent si froid ne l'a pas mangé aux abris. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein.
Il faut croire, moi je pense que c'est ça. Il faut croire cependant qu'un vent si froid ne l'a pas mangé. Point. Aux abris, en revanche, il y a quelque chose au moment où je te fais.
Non, moi je dirais pas mangé aux abris. En revanche, il y a quelque chose. Au moment où je te fais la lettre, c'est presque nuit, on dirait que le vent se pose. Oui, ça t'intéresse ?
Oui, c'est plaisant.
Car avec la...
Grâce de Dieu.
Ah oui, je ne prends pas le mot. Ah, mais ça, c'est... Maman, comme je t'avais dit, était allée à Saint-Pons. La petite Élise ne va pas à l'école, rapport à la coqueluche. Ne le dis pas à Ernest. Là, il faudra vraiment que tu marques la parenthèse.
Ernest, j'en ai peu entendu parler. Ma grand-mère me parlait plus de ses parents et de son frère Aimé. J'ai beaucoup entendu parler de Aimé. Mais Ernest, non, j'en ai pas trop entendu parler.
Je te fais ces deux mots. Tout en gardant les vaches, il disait Aimé, appelle pas, voilà. Et moi, je suis allée aux vaches, jusqu'à maintenant, avec Aimé. et maintenant je viens de le mettre au berceau. Et tout en y faisant...
Nénénén.
C'est ça hmm? Et comment tu dis, toi?
Faire nana. Tu fais nez contre nez, tu dis nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan fais ces deux mots. Enfin, mon cher bien-aimé, ne te fais pas de mauvais sang, car je te le répète, ici, tout va bien. Et si je passe un jour sans t'écrire, ce sera cause au travail. Ton épouse, qui ne cesse de t'aimer et de penser à toi, Marie Fabre.
août 1914. La guerre est déclarée, mais les Français sont déjà à 30 km en Allemagne. La victoire est gagnée. Fabre Pierre qui t'embrasse. Chère épouse, nous avons déjà vu les Prussiens. Ils reculent sans nous faire grand mal. Nous allons les roustir sûrement. Alors ne vous faites pas du mauvais sang. Moi, j'ai toujours l'espoir de nous revoir tous ensemble. Courage, chérie. 26 août 1914. Hôpital militaire de Pau. Je suis blessé à la main droite. Fabre.
Ça, c'est ma mère. Marie Viste au départ et Fabre après. Et ça, c'est mon père. Pierre Fabre. Là, il doit y être aussi, mais je ne sais pas où. Ah oui, le voilà. Décoiffé, je ne le reconnaissais pas. Et ça devait être au début, ça. Il a l'air fatigué. Il y a des infirmières.
Eh oui, il y a des infirmières. Il était à l'hôpital.
Il était à Pau, oui. Ça, c'est toujours pareil. Il est là.
Au milieu. Toujours entouré d'infirmières.
Oui, parce que je pense qu'il ne pouvait pas du tout... Au début, il ne se servait pas du tout de son bras droit. Donc, il fallait que j'ai quelqu'un quelquefois à côté. Là, il est là. Et là, il est là. On lui avait enlevé un morceau d'os, là. Alors, il faisait ça, mais il faisait pas ça. Il ne bandait pas le bras plus haut. En fait, ça ne l'a pas empêché. Au moulin, il remuait les sacs, on ne les montait pas. Il y avait des diables pour les masser. Il avait monté, c'est lui qui l'avait fait faire, ça. Il avait monté un moulin vraiment moderne. Seulement, c'était un moulin à seigle. Et du seigle, on n'en fait plus.
Imaginez un petit coin de France, comme il y en a 100. Un vieux moulin, comme il y en a 1000. Sur le seuil, un ouvrier, comme il y en a des millions. Et voilà ma chanson. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière. Et partout, ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais...
Ah, moi, le moulin, je l'ai toujours connu, puisque bon, je suis né ici. Donc, je connais le moulin depuis presque 69 ans.
Le métier...
Mes parents se sont mariés, mon père est parti à la guerre d'Indochine et est resté 2 ans en Indochine, donc ma mère qui était enceinte est restée habiter chez ses parents, donc je suis né ici, dans la maison de mes grands-parents.
Bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres, hardi, tant qu'il a de bras, un bon meunier ne s'arrête pas.
Alors le moulin, c'est d'abord une ancienne ferme qui a été transformée en moulin par mon grand-père.
Que déjà, moi je l'ai
Il était à la fois agriculteur et meunier, mais on peut dire qu'il était à 80% meunier et 20% agriculteur.
Et toujours de ses grandes ailes, le moulin continue tout doux, le tic-tac de son cœur fidèle. Maître Pierre, il fait bon chez vous.
Les sons du moulin, pour moi, c'est même pas des bruits, c'est le son de leur voix. Mes grands-parents, qui étaient très pieux, le soir, avant de s'endormir, récitaient des prières à haute voix. Et c'était des styles de prière où finalement ils se répondaient. Et ça, c'est quand on est gamin et qu'on entend ça, bon, ça reste quoi. Ça, je re-entends le son de ses voix le soir, dans le calme.
Le moulin de Vergougnac, 29 août 1914. Cher époux, lorsque nous avons reçu ta carte nous disant que tu étais blessé, j'ai dit de suite que où que tu sois, je voulais venir te voir. Si tu peux, cher Pierre, fais-moi réponse de suite, ne serait-ce que deux mots, pour nous dire si l'on peut entrer à l'hôpital n'importe quel jour. Et dis-moi bien l'état où tu te trouves, ne me le cache pas. Ton épouse qui t'embrasse, Marie Fabre.
Pau, le 5 septembre 1914. Bien chère épouse. Ma blessure va mieux. J'espère venir vous voir dans quelques jours. Avant que je sois guéri, la guerre sera finie. Ton époux fidèle pour la vie.
Ah, mon Dieu, mon bien-aimé Pierre. Si le bon Dieu veut que l'on te soigne ta blessure comme il faut, ce sera le bonheur de nous tous, chérie.
Ah, chère petite femme que j'aime. Si Dieu voulait que cela continue toujours, afin que si je suis encore pour quelque temps à rester ici, je puis te voir, chérie, à mon arrivée, pleine de santé, de joie, avec notre cher petit tout dans tes bras, pleine de santé aussi.
Quant à moi, cher Pierre, je travaille tant que je peux. J'ai surtout bon appétit. Ces jours-ci, maman fait moudre, papa arrange les champs, et moi, avec Élise, nous labourons. Nous avons eu des nouvelles d'Ernest aujourd'hui. Il est encore à Béziers.
Ernest m'a écrit dedans le train. Il me dit qu'il a toujours bon courage.
Mon cher petit mari bien-aimé, comme tu auras langui cette semaine, chérie, sans nouvelles.
Le plus doux baiser pour toi, chérie, est le petit tout. Tu voudras bien me dire, chère Marie, au plus tôt, quel nom vous lui donnez.
Me voilà, au saut du lit, un petit instant. Je ne puis pas te faire trop de raisonnement, car petit aimé commence de s'éveiller.
C'est après avoir mangé la soupe que je viens passer un petit moment auprès de vous tous. Surtout auprès de toi, chérie. Ce petit instant m'est si précieux. C'est le seul plaisir que j'ai en mon cœur. Oui, chère Marie, le seul plaisir. Dieu a bien voulu me le garder, car malgré ma blessure à mon bras droit, malgré mon bras immobilisé, j'ai toujours pu écrire quelques lignes de ma propre main.
Ah, cher Pierre, comme elles sont languies, ces lettres.
Ah, chère épouse, que j'aurais été punie s'il m'avait fallu que je fasse écrire quelqu'un à ma place.
Ah, chérie, si j'ai une minute, je la passe en priant le bon Dieu.
Comme il nous a donné le bonheur de rapporter ma vie à travers la mitraille.
Magazine mensuel de la Première Guerre mondiale par Pierre Cipriot. Aujourd'hui, l'arrière 1914-1915.
On est dans une période et un événement extraordinaire.
Avec la collaboration de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Et là, avec ses lettres, On touche, non pas à l'ordinaire, mais à quelque chose qui est en deçà de l'ordinaire, parce que la guerre, c'est aussi ça.
Jean-Michel Géa, sociolinguiste et analyste du discours.
Des textes de Maurice Barrès, Georges Bernanos, Louis-Ferdinand Céline...
La guerre, c'est pas seulement le moment où on sort de la tranchée et où on monte à l'attaque. Tout le reste du temps, c'est du temps fait d'attente. Et ce que nous disent ces lettres, c'est ce temps long de la séparation, du temps long de l'attente. On est vraiment dans une écriture de l'infraordinaire et donc la quotidienneté la plus banale de la guerre. Après, tout ça s'est écrasé par toute une littérature de guerre qui a survalorisé l'extraordinaire. Et tout l'enjeu, peut-être de notre travail, c'est justement de dire aussi que la guerre, c'était essentiellement ça.
France.
Ce quotidien ordinaire, banal.
Vie,
patrie,
santé.
Mais pas sans intérêt, parce que justement, l'interaction épistolaire en temps de guerre repose majoritairement sur ce quotidien banal, coupé hein, du caractère extraordinaire de l'événement. Quoi.
Plaisir,
jour,
mort,
un peu de jambes,
recevoir,
fils,
cœur,
patrie.
C'est, ce qui est flagrant, c'est que ce qui est anormalement sous-employé dans les lettres de simples poilus, c'est ce qui est anormalement surreprésenté, généralement, dans les lettres de la bourgeoisie lettrée. Lorsqu'on regarde en termes de statistiques lexicales qui ne sont pas des impressions de lecture, ben les formes suremployées ne sont jamais les formes qui réfèrent à la guerre, à la bataille, à l'idéologie.
Patrie,
drapeau,
attaque,
albauche,
Russie,
régiment,
poche,
France.
Le mot France, par exemple, est toujours statistiquement sous-employé. Tous ces termes qui alimente notre horizon d'attente de non-spécialistes que tout un chacun a sur 14-18, tous ces termes sont anormalement sous-employés. Alors, non pas par rapport à un corpus de référence qui serait extérieur à la correspondance, mais par rapport à la correspondance elle-même.
Vie, dire,
le petit morceau de fromage,
albauche,
Russie intolérable,
faire,
boire, le foie de canard,
plaisir,
vie,
régime,
un peu de saucisse, patrie,
combat, un vent terrible,
car ces bonnes figues,
santé,
patrie,
drapeau.
C'est presque décevant, mais c'est justement cette déception que moi j'interroge. Je me souviens au tout début où je commençais à traiter ces lettres de soldats entre guillemets ordinaires, ni dégradés, ni les élites, ni la bourgeoisie, mais des soldats tout venant. De façon forcenée, j'essayais de me focaliser sur les lettres qui parlaient de la guerre, de la bataille, des horreurs. Et finalement, sur une correspondance, je devais en avoir que 4 ou 5, et j'en avais des dizaines et des dizaines dont je ne savais pas trop quoi faire, parce que finalement, elle ne parlait pas de la guerre. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que tout l'intérêt, finalement, était de travailler sur ce non-dit concernant le réel guerrier, ce que j'avais appelé stratégie d'évitement. Je parle de stratégie, parce qu'à un moment donné, c'est assez conscient. À un moment donné, lorsqu'on a le choix de dire et de ne pas dire, on fait le choix de ne pas dire. Quoi. C'est ça, cette idée de silenciation. C'est pas lorsqu'on n'a rien à dire sur quelque chose.
Le 19 octobre 1914.
C'est-à-dire que le soldat envisage la lecture de sa propre lettre.
Chère épouse.
Et là, le silence devient une modalité du discours.
Ma blessure va toujours de mieux en mieux. On m'a fait à peine 2 massages et je trouve que ça me fait du bien. Je dois te dire, chère épouse, que je suis très content que mon beau-frère ne t'ait pas fait peur. Il m'a fait tellement pitié quand il est parti qu'il me semblait toujours qu'il arriverait tellement triste qu'il allait vous faire croire à tous que j'étais bien plus gravement blessé que ce que je suis. Ah, chère Marinette, je n'aurais jamais cru qu'il ait un cœur si tendre. Il a un cœur de femme. Toi aussi, chère épouse, tu es comme lui. Tu n'as jamais voulu me croire. Sur toutes tes lettres, tu me répètes toujours pareil.
Mon bien-aimé petit mari, me voilà un petit instant à moi, bien cher Pierre, pour venir te dire toutes les vérités. Mais chérie, si je te les dis, j'entends que toi aussi tu me les dises à moi.
Ah, chère épouse, je voudrais bien que tu nous vois faire. Nous sommes 4 ou 5 numéros recommandés. Les docteurs et les infirmiers voudraient parfois nous engueuler, mais ils ne peuvent pas car ils sont toujours pris de rire. Hier, chère épouse, j'aurais voulu t'écrire une lettre, mais nous avons eu un travail terrible. Nous avons pris une entreprise de manille. Tu peux croire que les pauvres cartes s'en rappelleront.
Tu fais bien, chérie. Au moins, fais-moi le plaisir de tout me dire. Tiens-moi au courant de tout. Ne me cache au moins plus rien.
17 février 1915. Chère petite femme, permets-moi encore de venir te faire de la peine et de venir t'annoncer une chose que j'avais été obligé de te cacher. Tu vas m'en pardonner, je l'espère. Aujourd'hui, ou à partir de maintenant, je n'aurai plus rien à te cacher. Tout va être la vérité même. J'ai été opéré hier à 9h, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé des esquilles d'os qui étaient restées sans se recoller et qui me faisaient suppurer toujours. Ce n'est point grave, ne t'en alarme pas. Je vais très bien maintenant. Tu peux en juger par toi-même. Si c'était grave, je n'écrirais pas.
Ce soir, en lisant la lettre, ça fait quelque chose. Ce qui me fait toujours le plus de mal à mon cœur, c'est les souffrances que tu as dû endurer, mon tendre chéri. Et moi, ne pouvoir rien ici pour améliorer tes souffrances.
J'ai été un peu fatigué hier à la suite de l'opération, qui a été un peu longue et qui m'a fait un peu souffrir, parce que je n'ai pas voulu être endormi.
Je savais que tu souffrais, oh oui, car je le devinais.
Maintenant, je ne souffre plus, j'ai bien dormi la nuit, je vais aller maintenant me faire mon pansement.
Ce n'est pas que tu te sois plaint. Au moins, chérie, tu n'as pas voulu faire de la peine à tes chers parents, ni à ta bien-aimée.
Sois tranquille, chérie, car je suis très content ce soir.
Tu as tout enduré, sans te plaindre. Sans doute que tu as tout pris pour l'amour de Dieu.
Dans l'après-midi ou demain matin, lorsque j'aurai mon bras moins raide, tu auras une autre lettre qui te renseignera
mieux. Nous avons
mieux.
Tous les jours des nouvelles de mon frère. Il nous dit que ce
tu
n'est pas le rêve
tous les détails de mon opération.
Ses camarades
pour
sont
le moment,
souvent dans les tranchées la nuit.
Je ne puis mieux
Mais
faire.
Mais lui, il fait bien comme toi. Il ne se fâche pas. Il est très content d'être cuisinier.
Je te le répète, je suis très content. Je compte être bientôt guéri maintenant.
Sur sa lettre de hier au soir, il nous dit qu'il a soupé avec un lapin que ses camarades avaient réussi à trouver. Tu peux croire qu'il est content quand il peut nous annoncer quelque chose comme ça. Donc chérie, reçois un gros baiser du petit
embrasse
aimé.
Embrasse petit aimé pour
qui dort
son papa.
De son plus
embrasse
profond
tout le monde à la maison.
Et de ton épouse et
ton
ses douces affections.
Ton épouse qui t'embrasse, qui te demande de ne pas te faire de mauvais sang.
Ça, c'est pour le mariage de mon frère aîné. Maintenant, là, celui-là. Et bon. Est-ce que ce serait mon oncle, ça? Mais ça, il faudrait ma mère, je ne sais rien. Et bon. Je l'ai toujours regardé, cette photo, j'avais su qui c'était. Tu vois, c'est bête, parce que je n'ai jamais su. Je sais que mon oncle, donc celui qui a été tué, Ernest, habitait la Vérune. J'ai jamais su ce qu'il faisait. Ils n'en parlaient jamais.
Ma grand-mère avait évoqué la perte de son frère, puisque le frère de ma grand-mère est mort, je crois, dans la Somme.
De mort pour la guerre. Je crois qu'il n'y avait que mon oncle par là dans le coin.
Alors on a retrouvé des lettres justement de son frère Ernest qui écrivait à sa femme qui habitait ici avec ma grand-mère et à sa fille qui avait déjà je crois une dizaine d'années en 1914. Je n'ai jamais connu sa femme mais Élise je l'ai connue, on l'a considérée un peu comme une tante. Mais là aussi dans la famille personne n'en parlait trop et j'ai découvert exactement qui était Élise avec les lettres d'Ernest.
Demain, je serai de retour au front. Octobre approche. Le renoncement de l'automne gangrène déjà l'ardeur des premières offensives. Le froid monte de la terre avec la nuit. Là-bas, on se réveille avant l'aube dans un silence lugubre. Une oppression lente durant le sommeil a serré le regard des hommes qui évitent de se dévisager. lieutenant ou simple soldat. La solitude de ces heures a descendu chacun de sa hauteur. Nous nous taisons. Nous fumons. Côte à côte. Dans un recueillement abstrait. Dans l'obscurité, nos morts nous tiennent compagnie. Ce qu'une balle ou un éclat à tuer sans bruit, ceux qui serraient encore leurs fusils, ceux qui n'ont pas crié, dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui n'ont pas vu leur mort. Et ceux qui ont toussé leur sang, les yeux ouverts, calmes et sans voix, on est devant eux comme à la croisée des chemins d'un bourg endormi. Une route est là, qui éloigne des habitations. C'est un mince chemin de terre, une monotonie errante, comme la ligne de crête d'une falaise finale. Rien de notre monde, se dit-on, ne doit plus exercer d'influence sur celui qui va là, marchant seul. Werner Heller, lieutenant du 5e corps d'armée prussien.
Jacques m'a dit que quand sa mère s'était mariée, ils sont partis et ils sont allés essayer de trouver la tombe de son père, Ernest. Et ça, c'est sa mère qui le lui avait dit. Mais lui, là, il a absolument, dans ses papiers, il n'a absolument aucune photo de son grand-père, d'Ernest.
Je n'ai rien, sauf ce que m'en a raconté ma mère, Élise, donc Élise. Il n'a pas connu son père. Il est mort en 16 et elle était née en 8.
Le 20 octobre 1914. Bien chers parents.
On a retrouvé 39 lettres d'Ernest Wyst dans le grenier du Moulin.
Je viens en deux mots vous faire savoir l'état de ma santé, laquelle se trouve fort bonne et désire de grand cœur que vous en soyez tous de même.
J'avais jamais vu de lettres avec autant de photos autographes.
Surtout toi, chère sœur, dans l'état où tu te trouves. Il faut espérer que tu arriveras au bout et que vous aurez un peu plus de chance que la dernière fois.
Et la dernière, il s'adresse à Élise.
Élise où ? C'était ma mère, Élise.
Je suis surtout très content que la petite Élise soit bien sage. Et je suis été encore plus content quand j'ai pu lire sa petite lettre.
Elle m'avait dit justement qu'il était mort dans un abri où il jouait aux cartes, ils étaient quatre. Et lui a été tué par un obus qui l'a transpercé. Et les trois autres qui jouaient là l'ont enterré au pied d'un peuplier. Juste à côté de la tranchée où il était.
Quant à moi, chers parents, nous sommes toujours au même point. Nous sommes sûrs d'être changés de Béziers, mais nous ne savons pas ni où, ni quand.
Et ils ont réuni tous ses papiers, tout ce qu'il avait sur lui, le portefeuille, le livret militaire et tout, ils l'ont expédié par le baromètre qui passait là. Et le lendemain, ils sont montés à l'attaque. Ils sont tous morts.
Votre fils, pour la vie. Ernest Wyst. Le 6 novembre 1914. Ne sois pas étonné si tu ne reçois pas quelques lettres de celles que je t'ai déjà envoyées. Etinéem, il nous est absolument défendu de trop parler. Je me porte toujours très bien. Ça se passe toujours en famille pour le moment.
Et alors, le terrain a été pris, repris, perdu, reperdu. Et tout a été tellement massacré que le peuplier en question, au pied duquel était enterré mon grand-père, a disparu. Et, tenez-vous bien, ma mère s'est mariée fin 30 ou début 31. Et elle a exprimé à son mari qu'en voyage de noces, elle voulait aller voir si elle trouvait la tombe de son père. Et ils y sont allés Ils n'ont effectivement rien trouvé puisque tout avait été labouré par les obus. Et elle a passé les 15 jours de sa lune de miel en pleurant. Voilà tout ce que je peux vous dire que je sais.
Je m'empresse de répondre à ta lettre, que je reçois le 5, datée du 28, m'annonçant que tu es en bonne santé, malgré ta grave blessure. Mes chers beaux-frères, faut avoir beaucoup de patience, te ménager, et faut espérer que petit à petit, ça reviendra un peu en place. Sûrement que tu dois avoir passé quelques mauvais moments, mais que veux-tu ? Tu peux dire que tu seras quitte avec ce que tu as, malgré que ce soit beaucoup, malheureusement pour toi et nous tous, car nous ne savons pas ce qu'il me réserve pour moi. Nous avons passé quelques jours à Montdidier, et maintenant nous sommes montés à 40 km plus loin, du côté d'Amiens. Là aussi, nous sommes dans un village très bien logé. Nous souhaitons que cela dure, car le travail n'est pas trop mauvais. Nous faisons un jour des tranchées, mais malheureusement, que peut-être ça changera, que nous serons obligés d'aller occuper quelques tranchées. J'ai eu une lettre du moulin, en même temps que les tiennes. Elle me dit qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de moi depuis le 15. Cependant, j'y écris presque tous les jours. Je termine en vous embrassant à tous bien fort, sans oublier la petite Élisou. Ton frère pour la vie. Ton époux pour la vie. Ton tout à toi. Le 1er janvier 1915. Chère épouse, rien de nouveau chez nous. Nous nous préparons bien à faire le jour de l'an. Nous touchons du supplément vin et champagne, mais il vaudrait mieux la fin de la guerre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été trop exposés aux balles. Tout ce que nous avons vu, c'est quelques marmites qui ne nous ont pas tombées bien loin des nôtres. Mais de notre côté, tu peux croire que notre artillerie y en envoie quelques-unes. La compagnie est allée faire des tranchées de nuit, et moi je profite de t'écrire ces deux mots, tout en faisant chauffer le café pour demain. Je m'étonne un peu que ta blessure soit toujours au même point. J'aimerais bien que tu me dises si réellement tu pourras te guérir ou si malheureusement, jamais plus tu ne pourras te servir de ton bras. Je recevais en même temps que la tienne une lettre de Marie, me disant qu'ils sont tous en parfaite santé et que ton petit inconnu se fait bien gros. Il faut espérer que tu feras bientôt sa connaissance. Je ne me rappelle pas si je t'ai dit que j'étais cuisinier, et j'en suis pas fâché. Car jusqu'à présent, je n'ai pas du tout marché. Et surtout maintenant qu'ils vont faire 3 jours de nuit et 3 jours de repos pour faire des tranchées en première ligne. Tu penses que ce n'est pas le rêve, surtout qu'il pleut presque tous les jours. Je m'empresse de faire réponse à tes deux lettres que je reçois comme d'habitude, presque toujours deux à la fois. Inutile de te dire avec quel plaisir elles sont lues. Surtout quand je peux voir au début de la lettre que c'est ma chère petite Élisou. Elle seule me fait vivre. Combien dois-je la remercier d'être si aimable de vouloir m'écrire chaque jour et de voir que tu fais des progrès comme tu fais. Oui, ma chère Nini, il me semble que cette maudite guerre va être finie et que je pourrai t'embrasser pour te remercier de la façon que tu es gentille pour moi. Et vous, chère maman, vous voulez savoir s'il y a des églises ? Il y en a presque par tous les villages que nous passons. Mais je dois vous dire que souvent, nous n'avons pas le temps d'aller les visiter. Je vous charge à vous de prier pour moi. Surtout Élisou, qu'elle sera la plus vue et écoutée. Le 1er mars 1915. J'ai passé déjà 8 jours dans les tranchées. Mais le temps est assez beau et nous n'avons pas souffert du tout. Nous sommes été passer 5 jours de repos dans le village du Quesnel et nous devons de nouveau revenir aux tranchées. Je suis 4 jours en première ligne, 4 jours en deuxième. Nous nous attendons d'un jour à l'autre à avoir quelque attaque. Probable qu'elle sera générale. Il faut souhaiter qu'elle soit heureuse pour nous et pour la France, car réellement, cette fin de guerre est plus que désirée pour tout le monde. Je suis depuis 3 jours sans aucune nouvelle du moulin. Je ne sais pas si tu as appris que ton cousin Gabriel a été tué. Je ne l'ai pas appris par ceux du moulin. Je ne sais pas s'ils n'osent pas m'en parler. les tranchées. Le 5 avril 1915. Me voilà à toi et à tous mes chers parents, profitant de ce jour de Pâques, ce jour si gai d'habitude et si triste cette année. On peut dire triste, car jamais ce jour-là n'avait été marqué d'une épreuve comme nous subissons. Tu m'annonces la mort du Félignou, mais ce n'est pas l'aîné qui était à Béziers, c'était le plus jeune. C'est toujours malheureux lequel qu'il soit, mais il ne faut pas s'arrêter là, car c'est une guerre exprès pour anéantir le monde. Le 1er juin 1916. Je viens passer le petit moment habituel de tous les jours et suis très heureux de pouvoir te dire que je viens de recevoir ta chère lettre du 27, dans laquelle tu me dis que le pauvre Firmin serait été tué à Verdun. Mon ange, crois que ça fait quelque chose. Surtout quelqu'un que l'on a connu toute la vie. Mais que veux-tu? Nous y sommes exprès. C'est la guerre. Il faut que ce Verdun soit le tombeau de la moitié des Français ébauches. Le 21 juin 1915. Je viens un tout petit moment auprès de toi pour te dire que hier, j'ai été privé de tes chères nouvelles. Pour la journée, nous voyons quelques aéroplanes et quelques coups de canon qui se tirent dessus. Et c'est tout. Ce matin, on entendait les boches qui s'engueulaient avec les nôtres. Ça fait passer le temps. Je suis obligé de te dire qu'aujourd'hui, j'ai de nouveau été privé de tes chères nouvelles. Heureusement que hier, j'ai pu revoir ton écriture. Autrement, ça serait été un peu pénible te sachant malade. Enfin, il faut tout prendre pour l'amour de Dieu. Quant à moi, je vais très bien. Nous ne forçons pas trop. Nous faisons 4 heures de faction le jour et 3 heures la nuit, et le reste dans nos cabanes. Nous ne pouvons pas aller bien loin, car les voisins que nous avons ne sont pas trop commodes. Mais eux, de leur côté, en font pareil. Ils sont comme nous. Ils sont habitués à la guerre, et ne se font pas du mauvais sang. Des fois, on les entend faire de la flûte ou chanter. Ce n'est pas peut-être trop la joie. Et ça fait passer le temps. Heureusement que hier soir, j'ai eu un peu plus de bonheur que ces jours-ci. J'ai reçu 3 de tes chères lettres. Et crois que mon cœur s'est largement ouvert lorsque j'ai pu voir ta chère écriture. Tu es toujours pauvre à me dire que je te dise au moins tout ce qui se passe. Eh bien, la vérité, il me semble que je ne te cache rien, et rien de ce que je peux te dire. Question de secteur, comme tu me demandes, il n'est pas plus mauvais, mais question d'abri, un autre aménagement, il est beaucoup plus négligé que celui que nous venons de quitter. Aussi, de ce fait, nous en sommes un peu tous découragés. Et bien entendu que, après tout, il y a des moments qu'on voudrait être boche. Me voici à toi, mon cœur chéri, et puis te dire que je viens de recevoir ta chère lettre du 17, le 22 avril 1916. Question du colis que tu me parles, je dois te dire que je l'ai reçu ce matin, juste après la soupe, et dois te dire exactement ce qu'il en est. Eh bien, il est arrivé en très bon état. Sauf un œuf, qui n'a pas pu supporter le voyage. Le 15 septembre 1916. Je m'empresse de faire réponse à ta chère lettre que je viens de recevoir avec deux de maman. Je dois surtout te remercier, et remercier aussi la bonne mamée de la jolie prière que vous m'avez envoyée. Et surtout de me dire que tu en as gardé une autre, que tu liras tous les jours à l'intention de la Sainte Vierge, pour que bientôt, je puisse être à ton côté. Tu me dis que tu pars avec petite Aimée et Tata pour aller ramasser quelque chose. J'ai cru que tu voulais dire des murs. Enfin, je ne cesse de te répéter que tu sois encore plus sage que lorsque maman était avec toi. Embrasse petite Aimée à ma place, ainsi que mamie, ton papa qui t'embrasse. Ernest Wist.
François-Marie Ernest Wist, deuxième classe,
308e régiment d'infanterie, numéro matricule 849. Mort pour la France, le 6 novembre 1916, à Ablincourt. Tué à l'ennemi, né le 7 novembre 1879, à Le Soulier. Héros.
De silence et d'eau fraîche. Un documentaire sonore de Stéphanie Fonvielle et Maë Benhamed. Prise de son, Stéphanie Fonvielle. Montage, Stéphanie Fonvielle et Maë Benhamed. Mixage, Simon Garrett. Composition musicale, Maë Benhamed. Avec le soutien de la Fabrique des Écritures du Centre Norbert Elias, de Aix-Marseille Université, du CNRS et de l'EHESS École des Hautes Études en Sciences Sociales.